C'est moi, c'est Lola.
Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Théophile Gautier, 1811-1872, français, né à Tarbes comme tous les gens bien, politique, droite modérée, hétérosexuel. Œuvre Le Capitaine Fracasse, roman publié à Paris en 1863. Personnage Le Baron de Cigognac. Adaptation, plusieurs films d'un muet français de 1909 par Victorin Jasset à Un voyage du Capitaine Fracasse d'Ettore Scola en 1990. Des séries télévisées, des pièces de théâtre, la première en 1878 par Catulle Mendès qui était le gendre de Gautier, une bande dessinée de Mariol et Duarte. Quand on dit qu'un comédien crée un personnage, c'est inexact. Il l'habite, il le modèle, il le transforme, il le ranime, à la rigueur il le recrée, mais pour créer, il l'a été par l'écrivain qui l'a imaginé. Dans le cas du personnage dont nous allons parler aujourd'hui, son créateur, Théophile Gautier, l'a composé de si séduisantes façons qu'il a eu une influence sur une certaine manière de jouer la comédie 100 ans plus tard. Pour moi, le Baron de Cigognac a créé Jean-Paul Belmondo. Le type de jeu enjoué et rieur de l'acteur du XXe siècle me semble une conséquence du personnage du Capitaine Fracasse interprété par Cigognac dans le roman. C'est ainsi qu'un personnage de fiction interprétant un personnage de fiction a engendré une personne de la vie matérielle jouant la comédie. Le Capitaine Fracasse est un roman sur des comédiens de théâtre sous le règne de Louis XIII. Théophile Gautier les invente d'après une idée qu'il a conçue du type de jeu de cette période-là, puisqu'il n'en existe pas de recension. Grâce à lui, on peut dire « c'est l'œuf qui a fait l'œuf qui a fait l'œuf ». En art, il n'y a pas de poule. L'art est autonome dans la vie, mais indépendant d'elle et l'influençant. Un roman de 1863, imaginant des comédiens de 1637, a engendré un comédien authentique de 1953, et nous le lisons en 2018, y mêlant nos sensations et le transformant. Une œuvre d'art vivante et de tous les temps. Gautier a eu l'idée du Fracasse à l'âge de 25 ans. Il a même perçu d'un éditeur un avaloir pour l'écrire, ce qu'il a fait à 52 ans. Comme disait Cocteau, « vent dans la peau de l'ours oblige à le tuer. Rien n'empêche d'épauler longtemps ». Et c'est donc en 1863 que Gautier publie ce roman qui est un triomphe. Comme on est content pour lui qui était aimable et pour nous à qui il donne envie de l'être. Je ne vois pas beaucoup d'intérêt à citer les critiques du moment de la publication d'une œuvre, mais dans le cas du Fracasse, c'est intéressant. Si les artistes sont originaux, les critiques sont parfois des stéréotypes. Dans le Figaro du 19 novembre 1863, un critique que je n'irai pas jusqu'à nommer ose écrire « Monsieur Théophile Gautier, dont les petits sont insupportables, est moins un chef d'école qu'un chef de secte ». C'est évidemment un homme tout en grandeur qui a écrit. En 1874, Barbey d'Aurevilly, bouillonnant de jalousie, ce qui se remarque à la phrase « Monsieur Gautier est un inattaquable officiel », prédit que ce roman, je le cite, « n'augmentera pas beaucoup sa renommée ». 50 ans plus tard, André Gide, qui n'aimait rien tant que de chipoter les écrivains amples et généreux, écrit « Oui, Théophile Gautier occupe une place considérable, c'est seulement dommage qu'il l'occupe mal. Ah, comme on est content aussi que sans avoir répondu par le talent seul de son œuvre et sa perpétuation tranquille, Gautier ait répondu merde à ces gens-là. » Pour parler du Baron de Cigognac, je reçois Stéphane Guégan qui publie Delacroix peindre contre l'oubli chez Flammarion et qui est l'auteur d'une biographie de Théophile Gautier chez Gallimard en 2011. Stéphane Guégan, on peut dire que le Baron de Cigognac ressemble à son château, je crois. Le château est vieux et délabré et le Baron jeune et délabré.
Oui, c'est le premier moment du roman, l'approche en zoom avant. J'ai toujours d'ailleurs... Pensez à Citizen Kane en lisant le premier chapitre, le château de la misère de Fracasse. Effectivement, le château est à l'agonie et on découvre, après une longue description magnifique, qu'il est habité par un vieux serviteur qui s'appelle Pierre, précisément, et qui a vieilli avec les autres pierres. Il y a là un chat, il y a là un chien, et puis on découvre le baron lui-même. Le baron, jeune homme, dont Gautier nous dit qu'il se néglige, hein, les cheveux, le vêtement, qu'il est maigre, que son visage est tout en saillie, et qu'il respire la misère lui aussi, qu'il est en sorte une métaphore du renoncement. Il a renoncé, on ne sait pas encore très bien à quoi, et tout le roman va nous l'expliquer. Et très rapidement, dès le premier chapitre, le destin frappe à la porte. C'est le côté baroque de fracas, c'est-à-dire que, comme il le fera dire à une des protagonistes du roman, il faut saisir l'occasion par les cheveux. Et cette occasion, c'est une troupe de comédiens qui vient demander l'asile.
Je vous interromps tout de suite, nous n'avons pas dit où ça se passe, dans quelle région de France ça se passe.
Alors on est entre Dax et Tarbes. On est aux confins des Landes, on est dans ce sud-ouest qui est un peu celui de son enfance, mais qui est une enfance au fond rêvée, puisqu'il y a peu vécu.
Oui, jusqu'à l'âge de 3 ans.
Voilà, mais qui est en même temps celle aussi de l'Espagne, celle de ses castels, comme il le dit, du XVIIe siècle. Bref, on est dans ce monde qui n'est pas nécessairement un monde romanesque et dont il va faire sa matière.
Et donc Sigognac est un baron.
C'est un baron, il porte un blason, enfin le château porte un blason, hein, les trois cigognes sur azur, avec une devise, il faut viser haut. On est après les guerres de religion, au moment où la monarchie s'est reconstituée, dans les années 1630, qui sont celles aussi de l'illusion comique de Corneille, qui est un des grands modèles de fracas. Et ce roman, qui a été rêvé à 25 ans et écrit à 50 ans, est pour Gautier un moyen non seulement de nous dire qu'on ne guérit pas de sa jeunesse, mais qu'il est resté sous le Second Empire, à l'époque de Manet, de Flaubert et des modernes, attaché à une autre esthétique, celle du caprice, du fantasque, du fantastique, celle que la littérature Louis XIII, comme il le disait, et dont il a été un des grands réinventeurs, est le symbole.
Bah, il faut d'ailleurs dire, j'y pense, que Théophile Gautier est un de ceux qui a remis à la mode dans son livre Les Grotesques, enfin qui était un recueil d'articles, une chose que Sainte-Beuve a prétendu redécouvrir après lui, et qui étaient tous ces poètes qui n'étaient pas considérés, et le premier d'entre eux étant François Villon à l'époque.
Vous avez raison, ce sont les fameux irréguliers que taquinent Boileau et tout un certain XVIIe siècle, que Sainte-Beuve et d'autres, d'ailleurs, autant que Gautier, ont contribué à remettre en selle, c'est Scudéry, c'est Scarron.
C'est Théophile de Viau.
Voilà, Théophile de Viau. Et Scarron est également celui qui fournit des modèles de fracas.
Hein, on y reviendra, voilà. Après. Je voudrais qu'on revienne sur ce personnage, donc sur le baron de Sigognac, qui a 25 ou 26 ans, et des auréoles de bistre qui cerclent sous ses yeux meurtris, je cite Gautier. Est-ce qu'il a un prénom ?
C'est le baron de Sigognac. C'est l'aristocrate déchu, c'est l'homme à la tour abolie, hein, dirait Nerval. C'est aussi, et je pense à ce que Ettore Scola a dit de son film, c'est aussi un jeune homme qui n'a pas vécu. Prisonnier d'une chrysalide de misère, il n'a pas connu autre chose au fond que le château et ses alentours, il n'a pas connu le monde, et c'est précisément à cette misère, qui est aussi une misère existentielle, pas simplement une misère financière et une déchéance aristocratique, que Gautier décide de l'arracher.
C'est un rêveur,
mais qui a presque cessé de rêver au fond à ce qui pourrait l'arracher à sa condition.
Et justement, ce qui le déclencheur de tout ça, racontez-nous ce qui se passe dans le roman. Donc arrive dans le château.
Voilà, après avoir ingurgité un maigre brouet préparé par le fameux Pierre, il rejoint sa chambre, on est toujours dans le premier chapitre, et il ouvre les poésies de Ronsard. Il se désintéresse du livre, son chien se met à aboyer. Et on frappe à la porte, le baron de Sigognac descend, entr'ouvre la dite porte, et puis s'encadre un visage singulier, dans un effet qui rappelle les apparitions de Notre-Dame de Paris. Gautier aime bien jouer avec les références du romantisme. Et ce visage, ce comédien, c'est le destin, cette occasion qu'il faut saisir par les cheveux, dira plus tard une des comédiennes de la troupe. Ce sont donc des ambulants, une troupe qui demande l'asile à ce baron désargenté. Et puis le baron, justement, on va dire en conformité avec l'idéal de la noblesse, eh bien, leur donne l'asile, ouvre sa porte, les reçoit, partage leur repas. Et Gautier dit de manière très drôle ce premier repas, au fond, que le baron fait depuis tant d'années.
Qui est le repas qu'il fait avec la nourriture qu'ont apporté les comédiens.
Voilà, et on fait bombance. Et puis, bien sûr, l'apparition de ces femmes, le trouble. Lui qui n'a rien connu. Et se met en place, donc, d'une certaine manière, le cadre. romanesque du roman.
Je vais le citer. L'Isabelle, Donna Serafina et même la soubrette lui troublaient doucement l'imagination et lui faisaient l'effet plutôt de divinité descendue sur la terre que de simple mortel.
Gautier nous fait comprendre que le baron est aussi l'incarnation de frustration, de toutes sortes de frustrations. Il laisse entendre qu'il a croisé dans sa jeunesse une certaine Yolande de Foix et qu'il a vécu avec ce rêve, vous parliez de rêve, mais qu'il a fallu réprimer. Et donc, les comédiens sont là pour donner vie à ce qu'il n'a jamais pu finalement expérimenter et vivre jusque-là.
Et alors, il va suivre les comédiens, qu'est-ce qui se passe? Il se décide à les suivre, il part sur le chariot en laissant son vieux domestique au château.
Exactement, Gautier réécrit le roman comique de Scarron, qui précisément évoque les déambulations d'une troupe de comédiens, comme c'était le cas au XVIIe siècle, la troupe de Molière et d'autres. Le jeune Corneille a connu ça également. Et Gautier sait très bien tout ça, il s'est renseigné. Et il donne donc une couleur très concrète, d'ailleurs, à cette itinérance. On va de château en château jusqu'à Paris. Car au fond, ce que Gautier cherche aussi à très vite évoquer, c'est le vieux Paris. Dans ses articles au cours du Second Empire, il a, tout autant que le Cygne de Baudelaire, fait son deuil du vieux Paris. Il s'est renseigné. Et il y a un très très beau chapitre sur le Paris Louis XIII. Le Paris d'ailleurs qu'il avait connu dans sa jeunesse. Il a vécu Place des Vosges. Donc il pose ce cadre et il fait au fond de cette troupe une sorte de nerf de la narration.
Il faut dire que quelque chose d'important s'est produit avant l'arrivée à Paris, c'est que le personnage de Matamor meurt dans la neige et...
Et précisément, Sigognac prend sa place et change d'identité. Ou plutôt, va renaître à lui-même. Car c'est aussi ça, le coup de génie du roman, c'est que la vie est un théâtre, la vie est une scène. Gautier est shakespearien jusqu'à la moelle. Et il sait qu'il a besoin du théâtre, il a besoin de l'expérience du théâtre. Il a besoin de faire de Sigognac, non pas simplement l'homme qui accompagne, mais celui qui introduit et qui s'introduit dans la troupe pour qu'il devienne un personnage intéressant et pour qu'il, d'une certaine manière, se découvre lui-même. Et donc, sous le masque de Matamor, sous le masque du capitaine Gascon, sous le masque du Hableur, eh bien, le baron de Sigognac va pouvoir enfin quitter sa chrysalide.
Donc il faut dire que ces comédiens avaient tous joué dans des pièces à emploi. Chacun était l'ingénu, le ci, le ça. Donc il y avait un Matamor qui meurt et Sigognac le remplace. Et c'est à ce moment-là, il faut le dire, qu'il prend le nom
de Fracasse.
Voilà.
Fracasse qui vient d'une longue tradition du Moyen-Âge, de la Renaissance. C'est le Fracassus de la littérature populaire. C'est le personnage de la Commedia dell'arte et dont Gautier s'approprie la tradition pour la réinventer. Ce qui est très beau dans le moment où il prend la place du Matamor, c'est un chapitre qui s'appelle Effet de neige. C'est qu'il y met son expérience de la Russie. Car, vous l'avez rappelé, c'est un roman qui s'écrit sur 25 ans. Et entre le moment où il signe son premier contrat et le moment où il publie ses premiers feuilletons, il est allé en Russie. Donc il y a des très beaux effets de neige, il y a une picturalité et...
Il y a, pardon, un passage au moment où le cheval de Matamor meurt. Il y a un paragraphe de 15 lignes sur des corbeaux dans la neige qui vont piquer les yeux du cheval mort, qui est sublime.
Qui est sublime. Et qui donne aussi la dimension macabre, mortifère, l'humour noir. Il y a quelque chose.
C'est l'homme qui a écrit la comédie de la mort.
Exactement. Et ce roman qui est devenu un roman dit pour la jeunesse, qu'on a adapté en bande dessinée, est aussi un roman noir.
Bien sûr.
Très noir.
Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la suite de ces aventures? Il y a quelque chose de qui pourrait l'apparenter au roman d'aventure, c'est qu'il y a un méchant qui porte le très beau nom de Vallombreuse.
Oui, les spécialistes d'ailleurs l'ont rapporté au monde de Lamartine, et Gautier l'emprunte à Lamartine pour en faire bien sûr l'antithèse de la poésie de Lamartine, puisque ce Vallombreuse, c'est Valmont. Très vite on le voit, il est, puisque lui aussi n'arrive pas à ses fins, il veut séduire la jeune Isabelle dont Sigognac est amoureux. Elle se refuse à lui et il y a une scène terrible et presque sadique. Et Gautier d'ailleurs évoque le viol de Lucrèce par Tarquin, mais il laisse entendre aussi au lecteur attentif qu'il réécrit là les liaisons dangereuses et notamment la façon dont Valmont joue avec les femmes. Là, dans le cas de Gautier, elle se refuse à lui. Mais Vallombreuse ne s'en tient pas à cela. Il va la faire enlever. Il va justement finir par se battre en duel avec Sigognac. Et ce duel d'épée a des connotations sexuelles, bien sûr, très évidentes. Jusqu'à la révélation, faut-il en parler ici?
Donc on découvre que...
On découvre que ce Vallombreuse, malheureux en amour, est le demi-frère d'Isabelle. Parce que Gautier se permet tout. Dans les années 60, alors que le réalisme devient presque un dogme, lui veut maintenir son roman dans l'invraisemblance. Et donc les coups de théâtre, les coups du destin se multiplient à mesure qu'on avance dans la narration. Et l'un de ceux-là, c'est bien sûr la révélation de l'identité réelle d'Isabelle, qui n'est autre que la demi-sœur de Vallombreuse. Et Isabelle, qui ne pouvait pas précisément se lier à Sigognac, pensant que c'était une manière de déchéance pour le baron, va pouvoir s'unir à lui. Il retrouve le château de la misère qui devient le château du bonheur, précisément parce que elle apporte avec elle l'argent, si j'ose dire, de sa réelle famille, sa véritable famille. Et donc, on restaure, et Gautier d'ailleurs n'est pas pour rien l'homme d'une époque, qui est celle de Mérimée, on restaure le castel endommagé pour en faire le château du bonheur. Avec quand même, si vous me permettez,
bien sûr.
Parce que ça m'a frappé en relisant, de même que le chat noir, Béelzébuth, est le premier personnage à apparaître à l'écran, il est aussi le dernier à le quitter.
Et c'est
la mort de Béelzébuth. Et je trouve ça très beau, parce que Gautier était très attaché aux animaux, à sa ménagerie intime, comme il le dit, et au chat en particulier, autant que Baudelaire. Et il fait mourir le chat, parce qu'au fond, il faut que quelqu'un meure pour que le bonheur des autres puisse finalement rayonner.
Nous allons maintenant entendre un extrait du Voyage du capitaine Fracasse d'Ettore Scola. Cela date donc de 1990.
Minacciate! Cretino! Demente! Imbecille! Cimunito! Pappalesco!
Sua signoria Gianluca, me, barone di questo piffero e quest'arnese con questa berretta! Coi capelli tagliati per i pidocchi, che vergogna!
Ma dico, non ti potevi stare zitto, vecchiaccio rincitrullito!
Non potevi dire che ero un servo scemo come te!
Ti voglio proprio dare una bella lezione, guarda! Mi viene proprio voglia di fracassarti la schiena! Di darti una bella bastonata! Com'è il bastone?
Ci ho fatto il fuoco.
Non c'è niente in questa casa!
Stéphane Guégan, nous parlions avant cet extrait de Scola de la fin du roman, qui est une fin heureuse, à part, vous le notiez, la mort du chat. Mais il faudrait que vous nous disiez que cette cascade de miel, parce qu'on découvre aussi un trésor et que tout va vraiment bien, n'était pas la première idée de Théophile Gautier. Judith, sa fille, qui était la femme un temps du Catulle-Mendès que je citais au début, raconte ça.
Oui, à vrai dire, la première version fait mourir Vallombreuse. Et le pauvre Sigognac retrouve le château de la misère et s'y enterre. Il descend lui-même dans la tombe. D'ailleurs, petit détail, c'est par là que débute le film d'Abel Gance, puisque Abel Gance a adapté Fracasse sous l'occupation. C'est peut-être même le dernier film d'Abel Gance ou un des derniers films d'Abel Gance. Et la première scène est typique du cinéma fantastique de cette époque-là. Il pleut, on est dans une nuit d'orage, et l'on dit que Fracasse a décidé au fond de cesser de vivre et qu'il rejoint lui-même ses ancêtres, puisque les ancêtres sont eux-mêmes ensevelis au château. Et c'est cette fin dont Charpentier, l'éditeur, n'a pas voulu, d'après Judith. Et Gautier va se plier au diktat de l'éditeur pour une fin heureuse, mais qu'il n'est pas complètement. Car il maintient, grâce à la mort du chat, l'idée du sacrifice, l'idée de la mort. Et l'idée de la mort est permanente dans le roman. Vous l'avez rappelé, c'est d'abord Matamor, qui porte bien son nom, qui permet à Sigognac de devenir comédien et donc de vivre sa vie, comme dirait Godard. Et c'est le chat qui, en mourant, permet à Sigognac de découvrir le trésor familial et de redresser son nom définitivement.
Donc, malgré tout, il y a quand même, après la mort du chat, ça ne dure que quelques lignes, mais il y a quand même la découverte du trésor. Et je ne veux pas vous contredire à tout prix, mais le dernier mot du roman est le mot bonheur, malgré tout.
Oui, Oui, effectivement, mais on sent bien, comme souvent d'ailleurs chez Gautier, que d'abord ce bonheur a un prix et qu'il n'est pas, je dirais, comment dire, qu'il n'est pas suffisant pour que Gautier lui-même oublie de nous dire ce qu'il en est. Et il faut toujours revenir même à la donnée historique. C'est effectivement le roman d'un homme. Gautier arrivé aux honneurs dans les années 1960, qui regarde le jeune homme qu'il a été. Il a effectivement 25 ans en 1836 quand il signe ce contrat chez Randuel. Et donc c'est une manière pour lui de peut-être de s'imaginer un autre destin à travers Sigognac, mais aussi de dire cette hantise de la mort qui fait sa poésie si belle, si poignante et dont Baudelaire a très bien parlé.
Alors, le Capitaine Fracasse n'est pas, je pense, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, n'est pas du tout un roman de pastiche, parce qu'on voit pas bien ce qui pasticherait, sauf le roman comique de Scarron, on va y venir. Ça n'est pas non plus un roman historique, parce que un roman historique, dans le sens Dumas le plus répandu, c'est-à-dire où des personnages de fiction sont mêlés à des personnages ayant existé dans la vie matérielle, là, il n'y en a pas. Et donc, ça n'est pas du tout un roman historique. C'est un roman purement d'imagination. Et c'est peut-être ce qui fait aussi la force du personnage de Sigognac.
Je crois qu'effectivement, ce que Gautier veut nous dire, vous le rappeliez dans votre première présentation, c'est que l'art est à la fois dans la vie et séparé de la vie. Il ne s'agit pas pour lui de nous faire croire que tout ça s'est déroulé sous Louis XIII, entre le Sud-Ouest et Paris. Il s'agit de faire miroiter toutes les facettes d'un objet littéraire, exhumé à la fois d'un moment qui est celui de Louis XIII, mais qu'il fantasme, et puis d'une envie, surtout d'un désir de littérature. Gautier, au fond, n'a pas voulu non plus un roman mélancolique. Il s'agit pas simplement de dire « le temps passe ». Le temps marche vite, comme il le dit. Il s'agit aussi de s'entraîner lui-même dans une nouvelle aventure littéraire. Hein, il saisit la main du jeune baron pour que le baron lui-même l'entraîne dans une nouvelle aventure littéraire, parce que le fracas est un défi. Au moment des Misérables, au moment de l'éducation sentimentale, au moment de tout ce qu'on en veut, c'est un roman qui n'a rien à voir avec le reste. Et vous avez raison, c'est pure fantaisie. D'ailleurs, il le dit dans l'avant-propos, Gautier, ce livre n'est aucunement en harmonie avec l'époque moderne. Je m'en suis détaché, j'ai voulu inventer autre chose, réinventer autre chose. Et il ne se donne pas le moindre mal pour fixer, situer, inscrire dans un tissu historique sa trame romanesque. Elle vaut pour elle-même, elle vaut par elle-même.
D'ailleurs, c'est un roman qui a beaucoup marché. On peut, avec beaucoup de prescience qui rétrospective, dire pourquoi, mais en fait, on n'en sait jamais rien. Il y a même des éléments dans ce roman qui pourraient avoir fait qu'il n'ait pas marché. En particulier, je pense à son vocabulaire, son lexique qui est très riche et qui n'est pas quelque chose de très populaire. Je pense pas que...
Oui, c'est une langue très recherchée. C'est une langue qui, sans singer le style Louis XIII, utilise la préciosité ou l'argot, d'ailleurs, pour inventer toutes sortes de choses. Hein. Quand il y a une aristocrate, un personnage, je crois que c'est la marquise de Bruyère, qui se fait belle avant une représentation théâtrale, Gautier nous dit qu'elle s'adonise. Et puis, il y a toutes sortes de vous avez raison, il y a toutes sortes d'expressions comme ça qui semblent tirées du lexique baroque, mais qui sont de la pure invention de Gautier. Comme toujours chez Gautier, le poète l'emporte, au fond, sur l'érudit. Il a lu tout ça. Vous l'avez rappelé, les grotesques. Entre 36 et 44, il est repassé à travers toute la littérature baroque du 1er 17e siècle. Il connaît très bien l'Illusion comique et Scarron, mais il en fait sa matière. Comme un peintre qui est sur le motif. Il en fait sa matière et le roman tient par lui-même.
Le baron de Sigognac est un personnage à plein, si je puis dire, qui existe par lui-même, avec très peu de choses, je pense, de Théophile Gautier. On dit toujours que les romanciers font leur personnage d'après eux-mêmes. Je ne crois pas. En tout cas, dans ce cas-là, il y a peut-être une chose qui est Gautier, qui a été de la jeunesse de Gautier, c'est qu'il a une qualité, à mon sens, excessivement rare, c'est qu'il est à la fois très jeune, il a 25 ans, enfin en tout cas au début du livre, et plein de bonté. Et je ne suis pas tout à fait sûr que la bonté aille toujours avec la jeunesse, mais Gautier était comme ça.
Oui, ça serait sa composante de sensibilité, vous avez raison. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à la version définitive du roman quelque chose de plus touchant que ce qu'il avait imaginé, parce que Maxime Ducamp nous le dit, le premier roman aurait mis en scène une sorte de hableur, quelque chose qui serait resté trop proche, trop littéral, trop conforme au modèle de la Commedia dell'arte. Là, il en fait sa chose, il revit effectivement sa jeunesse dans toutes ses dimensions, et il dit aussi son attachement, et ça, Starobinski l'a très bien compris dans son portrait de l'artiste en saltimbanque, il dit son attachement à un certain monde, au monde de la pantomime, au monde du cirque, au monde du petit théâtre, du théâtre populaire. Gautier était un des grands critiques dramatique de son temps, et il n'a pas simplement exalté le génie de Hugo, de Dumas, de Musset et de Vigny, mais il a également aimé l'énergie vitale du théâtre populaire. Et il a fait passer ça dans Fracasse.
Nous avons beaucoup parlé du roman comique de Scarron. On a parfois évidemment pensé au Wilhelmmeister de Goethe où le personnage se fait aussi comédien. Je vais vous dire, pour moi, le roman auquel me fait le plus penser Cigognac et le Fracasse, c'est Don Quichotte. Pour moi, Cigognac, c'est une espèce de Don Quichotte.
À la réserve près qu'il montre effectivement une grande noblesse, mais que cette noblesse s'exerce. Elle ne s'exerce pas simplement sur des chimères. Elle s'exerce dans la vie courante, quand il donne asile aux comédiens, quand il se bat en duel, quand il prend la défense des uns et des autres, quand il s'expose au danger, quand il montre une grande générosité d'âme, quand il est prêt même à renoncer à Isabelle pensant qu'il a tué le duc de Vallombreuse. Il montre là son éthos aristocratique, et c'est un Don Quichotte, mais c'est un Don Quichotte qui serait parvenu, si je peux dire, à exercer dans le réel sa noblesse et son goût de l'aventure.
Il y a une chose que dirait quelqu'un que je ne déteste pas, qui est Wilde et qui est la vie Mittelaar, et bien une chose qu'a inventé dans ce roman Gautier, qui est l'aristocrate qui se fait comédien, a existé après. Je pense à José Luis de Villalonga, Lida Valli ou Marina Vladi. Eh ben, il a eu une espèce de préscience comme ça, et ça s'est produit après. Je ne crois pas qu'il en existait beaucoup, ni sous Louis XIII, ni au temps où lui-même écrivait.
Non, j'aime bien les ponts que vous jetez avec le cinéma et le théâtre, et je ne pensais pas à Belmondo dont vous parliez tout à l'heure, mais une chose qui me frappe, c'est que Le Capitaine Fracasse a été lu par le jeune Proust, et on comprend pourquoi, hein, c'est le roman du temps retrouvé, mais il a été lu aussi par des écrivains qui voyaient en Gautier un homme qui disait oui à la vie.
Stéphane Guégan, que vous a appris le personnage du baron de Cigognac?
Il m'a appris qu'on ne guérissait pas sa jeunesse, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il me semble que c'est une des vraies composantes du roman, mais que cette jeunesse doit vous accompagner, il ne faut pas en faire son deuil. Et Gautier demande au jeune Gautier qu'il avait été en 1830 de l'accompagner dans une nouvelle aventure littéraire. Je crois que ça vaut pour d'autres situations de la vie et de l'existence, et c'est peut-être une des morales également, et de Cigognac et du Capitaine Fracasse.
C'était Personnage en personne, le 26e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Trimalcion, créé par Pétrone dans le Satyricon.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgrin, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté. Quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis là-haut.